Le mâle dominant des origines. Le mâle dominant des origines était puissant chez Buck. Et dans les conditions féroces de la piste, il se développait de jour en jour. Pourtant, ce développement se réalisait en secret. Son astuce récente lui donnait assurance et maîtrise de soi. Néanmoins, il était trop occupé à s'adapter à sa vie nouvelle pour se sentir à l'aise. Non seulement il ne cherchait pas la bagarre, mais il l'évitait chaque fois que c'était possible. Ce qui caractérisait son attitude, c'était une certaine pondération. Il n'était pas enclin à l'imprudence ni à l'action précipitée. Dans la haine acharnée qu'il opposait à Spitz, il ne trahissait aucune impatience et ne prenait jamais l'offensive. De l'autre côté, peut-être parce qu'il devinait en Buck un rival dangereux, Spitz ne perdait pas une occasion de montrer les dents. Il s'écartait même de son chemin pour malmener Buck et s'acharnait constamment à engager un combat qui ne pouvait se terminer que par la mort de l'une des deux bêtes. Ce choc décisif aurait pu avoir lieu dès le début du voyage s'il ne s'était produit un incident inhabituel. À la fin d'une journée, ils établirent un campement lugubre et misérable sur la rive du lac Le Barge. La neige qui tombait drue, un vent coupant comme un couteau chauffé à blanc, et l'obscurité qui régnait les avaient forcés à chercher à l'aveuglette un lieu où camper. Cela n'aurait guère pu se passer plus mal. Derrière eux se dressait une falaise rocheuse à pic. Et Perrault et François furent contraints de faire un feu et d'étaler leur sac de couchage sur la glace même du lac. La tente, ils l'avaient abandonnée à Dia, pour voyager sans s'encombrer. Quelques morceaux de bois flottant leur permirent d'allumer le feu, mais il fit céder la glace et passa au travers, ce qui les obligea à manger leur dîner dans le noir. Tout près du rocher qui les abritait, Buck creusa son trou. Il était si confortable et si chaud qu'il eut du mal à le quitter lorsque François distribua le poisson qu'il avait d'abord fait dégeler au-dessus des flammes. Mais quand Buck, sa ration terminée, revint à son abri, il le trouva occupé. Un grognement rageur l'avertit que l'intrus n'était autre que Spitz. Jusqu'alors, Buck avait évité le conflit avec son ennemi, mais cette fois c'en était trop. En lui, la bête rugit. Il se jeta sur Spitz avec une fureur qui les étonna tous deux, et particulièrement Spitz, car toute son expérience de Buck l'avait conduit à penser que son rival était un chien anormalement timide, qui ne réussissait à se tirer d'affaire que grâce à son poids et à sa taille exceptionnelle. François fut surpris, lui aussi, quand ils jaillirent tout emmêlés du trou où l'un avait dérangé l'autre, et il devina la raison du conflit.
« Ah ah ! » cria-t-il à Buck. « Donne-lui une leçon, bon Dieu ! Apprends-lui à ce sale voleur !»
Speed s'en voulait tout autant. Il poussait de vrais cris de rage et d'excitation et tournait dans tous les sens, cherchant l'occasion de bondir. Buck n'était pas moins excité ni moins prudent. Lui aussi décrivait des cercles pour prendre l'avantage. Mais c'est alors que l'inattendu survint. Un événement qui reporta à un lointain avenir leur combat pour l'hégémonie, par-delà de nombreux milles épuisant de labeur sur la piste. Un juron de Perrault, le choc sonore d'un gourdin sur une carcasse osseuse et un glapissement aigu de douleur annoncèrent le déchaînement du tohu-bohu. On découvrit soudain que le camp grouillait de silhouettes de rôdeurs velus. Des huskies mourant de faim, entre 80 et 100 bêtes qui, venus de quelques villages indiens, avaient flairé le camp. Ils étaient arrivés sans bruit pendant que Buck et Spitz étaient en train de se battre, et quand les deux hommes se jetèrent entre eux avec de solides gourdins, ils montrèrent les dents et ripostèrent. L'odeur de la nourriture les rendait fous. Perrault en trouva un, la tête enfoncée dans la boîte de vivres. Son gourdin frappa lourdement les côtes décharnées et la boîte fut renversée à terre. Aussitôt, une vingtaine de ces brutes faméliques se précipita sur le pain et le bacon. Les gourdins s'abattaient sur eux et ils ne s'en rendaient même pas compte. Ils jappaient et hurlaient sous la grêle de coups, mais n'en continuèrent pas moins à lutter follement jusqu'au moment où ils eurent dévoré la dernière miette. Entre-temps, les chiens de l'attelage, stupéfaits, étaient sortis précipitamment de leur trou pour être aussitôt attaqués par les féroces envahisseurs. Jamais Buck n'avait vu de tels chiens. On aurait dit que leurs os allaient leur crever la peau. C'étaient de vrais squelettes, drapés trop au large dans des peaux salies, avec des yeux étincelants et des crocs couverts de bave. Mais la folie suscitée par la faim les rendait terrifiants, irrésistibles. Pas moyen de lutter contre eux. Ils repoussèrent les chiens de l'attelage contre la falaise dès le premier assaut. Buck fut attaqué par 3 huskies, et en un rien de temps, ils lui déchirèrent et lui tailladèrent la tête et les épaules. Le vacarme était effrayant. Billy gémissait, comme à son habitude. Dave et Sol Lex, qui saignaient par de nombreuses blessures, se battaient courageusement côte à côte. Joe faisait claquer ses mâchoires comme un démon. Une fois, ses dents se refermèrent sur la patte avant d'un husky et il fit craquer l'os et le brisa. Pike, le simulateur, bondit sur l'animal estropié et lui cassa l'encolure d'un coup de dent rapide comme l'éclair. Buck saisit à la gorge un adversaire écumant et fut éclaboussé de sang lorsque ses dents s'enfoncèrent dans la veine jugulaire. La saveur chaude qui lui resta dans la gueule l'incita à se montrer encore plus féroce. Il se jeta sur un autre et en même temps sentit des dents s'enfoncer dans sa propre gorge. C'était Spitz qui l'attaquait en traître sur le flanc. Perrault et François, après avoir nettoyé chacun une partie du camp, se hâtèrent de sauver leur chien de traîneau. La vague sauvage des bêtes faméliques reflua devant eux et Buck, d'une secousse, parvint à se libérer. Mais ce n'était qu'un répit. Les deux hommes furent contraints de revenir sauver la nourriture en courant. Sur quoi les huskies se remirent à attaquer l'équipe. Billy, que la terreur rendait vaillant, bondit à travers le cercle féroce et s'enfuit sur la glace. Pike et Dub, lui, emboîtèrent le pas et le reste suivit. Alors que Buck se ramassait sur lui-même pour bondir derrière eux, il vit du coin de l'œil Spitz se ruer sur lui avec l'intention évidente de le renverser. S'il était tombé à terre, enseveli sous cette masse de husky, c'en était fini pour lui. Mais il rassembla ses forces pour soutenir le choc de cette attaque et put rejoindre ceux qui s'étaient échappés au loin sur le lac. Plus tard, les 9 chiens de l'équipe se rassemblèrent et cherchèrent un abri dans la forêt. On ne les poursuivit pas, mais ils étaient en piteux état. Il n'y en avait pas un qui n'eût reçu 4 ou 5 blessures, et certains étaient grièvement atteints. Dub était sérieusement touché à une patte arrière. Dolly, la dernière husky à avoir rejoint l'équipe à Adéa, avait la gorge vilainement déchirée. Joe avait perdu un œil, tandis que Billy, la bonne patte avec une oreille rongée et réduite en lambeaux, cria et gémit pendant toute la nuit. Au point du jour, ils rejoignirent prudemment le camp boitillant. Les maraudeurs étaient partis. Ils trouvèrent les deux hommes de mauvaise humeur. La moitié au moins de leur réserve de nourriture s'était envolée. Les huskies avaient mâchonné les courroies du traîneau et les bâches de toile. En fait, ils n'avaient rien épargné, y compris ce qui était à peine mangeable. Ils avaient dévoré une paire de mocassins en peau d'orignal appartenant à Perrault. Une grande partie des traits de cuir et même sur 2 pieds de longueur, la lanière qui terminait le fouet de François. Ce dernier cessa de considérer tristement ce désastre pour examiner ses chiens blessés. « Ah, mes amis, » dit-il doucement. Peut-être que ça va vous rendre fou, toutes ces blessures. Peut-être tous enragés, crédieux. Qu'est-ce que t'en penses, hein, Perrault ? Le porteur de message hocha la tête d'un air dubitatif. Avec les 400 milles de pistes qui demeuraient à parcourir jusqu'à Dawson, il pouvait difficilement se permettre une épidémie de rage parmi ses chiens. 2 heures de jurons et d'efforts réparèrent les harnais, et l'équipe endolorie par ses blessures se mit en route et lutta péniblement sur la section de piste la plus dure qu'ils eussent jamais rencontrée, la plus difficile, d'ailleurs, qui resta entre eux et Dawson. La rivière 30 Mile n'était pas prise par les glaces. Ses eaux sauvages défiaient le gel et la glace prenait seulement dans les contre-courants et les endroits tranquilles. Il fallut 6 journées de progression harassante pour parcourir ces terribles 30 milles. Et terribles ils le furent, car hommes et chiens vinrent à bout de chaque pied de terrain, au péril de leur vie. Une 12aine de fois, Perrault, qui avançait en éclaireur, tomba à travers les ponts de glace et ne dut son salut qu'à la longue perche qu'il portait. Il la tenait de telle façon que chaque fois qu'il basculait, elle restait accrochée au bord du trou creusé par son corps. Mais on était en pleine vague de froid. Le thermomètre marquait 50 au-dessous de 0. Et chaque fois qu'il passait au travers, il était forcé pour survivre de faire un feu et de sécher ses vêtements. Rien ne le décourageait. Et c'est bien pour cette raison qu'on l'avait choisi comme messager du gouvernement. Il prenait toutes sortes de risques, exposait résolument son petit visage ratatiné au froid glacial et luttait de la première lueur de l'aube à la nuit. Il contournait les rives menaçantes, bordées d'une glace qui s'affaissait et se craquelait sous les pas et sur laquelle il n'osait pas s'arrêter. Une fois, le traîneau passa au travers, avec Dave et Buck. Et ils étaient à moitié gelés, presque noyés, lorsqu'on les tira de là. Il fallut rallumer un feu pour les sauver. Une solide couche de glace les recouvrait, et les deux hommes les forcèrent à courir autour du feu pour suer et se dégeler, de si près qu'ils en étaient roussis par les flammes. Une autre fois, ce fut Spitz qui passa à travers, et entraîna toute l'équipe à sa suite jusqu'à Buck, lequel tira en arrière de toute sa force, avec ses pattes de devant sur le rebord glissant, tandis que la glace frémissait et cassait alentour. Heureusement, derrière lui, il y avait Dave, qui tirait tout autant. Et derrière le traîneau, il y avait François, arc-bouté à s'en faire craquer les tendons. Un autre jour, la glace du bord se fendit sur toute sa longueur et il ne resta qu'un moyen de lui échapper, gravir la falaise. Perrault l'escalada par miracle, tandis que François priait justement pour que ce miracle s'accomplisse. Et à l'aide de chaque lanière, de chaque courroie du traîneau et du dernier morceau de harnais tressé en une longue corde, on hissa les chiens un par un jusqu'au sommet de la falaise. François monta le dernier, après le traîneau et son chargement. Puis vint la recherche d'un endroit pour la descente, qui s'effectua en fin de compte à l'aide de la corde. Et le soir les trouva de retour à la rivière avec seulement un quart de mille à porter au bilan de la journée. Quand ils arrivèrent à l'Outalinka et à la bonne glace, Buck était épuisé. Les autres chiens ne valaient pas mieux. Mais Perrault, pour rattraper le temps perdu, les forçait à veiller tard et à se lever tôt. Le premier jour, ils parcoururent 35 milles jusqu'à la rivière Big Salmon. Le lendemain, 35 de plus jusqu'à la Little Salmon. Le troisième jour, 40 milles qu'ils conduisirent tout près des rapides de Five Fingers. Les pattes de Buck n'étaient pas aussi résistantes et aussi dures que celles des Huskies. Elles s'étaient ramollies durant les nombreuses générations qui s'étaient succédées depuis le jour où son dernier ancêtre sauvage avait été apprivoisé par un habitant des cavernes ou par un homme des rivières. Toute la journée, il boitait et souffrait le martyre. Une fois le camp dressé, il s'abattait comme un chien crevé. Il avait beau être affamé, il ne voulait pas bouger pour recevoir sa ration de poisson que François devait lui apporter. Aussi, le conducteur du traîneau frottait-il les pattes de Buck pendant une demi-heure chaque soir après dîner. Et il sacrifia le haut de ses propres mocassins pour en faire quatre à Buck. Ce fut un grand soulagement pour le chien. Un matin, une grimace qui ressemblait à un sourire se dessina même sur le visage tout ridé de Perrault. Comme François avait oublié les mocassins, Buck restait étendu sur le dos et agitait ses quatre pattes en l'air avec une mine suppliante. Il refusait de bouger s'il ne les avait pas. Plus tard, ses pattes s'endurcirent au contact de la piste et on jeta les chaussures usées jusqu'à la corde. À la rivière Pelly, un matin, alors qu'ils installaient les harnais, Dolly, qui ne s'était jamais fait remarquer auparavant, devint subitement folle. Sa maladie s'annonça par un long hurlement, un cri de loup à fendre le cœur qui fit se hérisser de peur tous les chiens. Puis elle se jeta droit sur Buck. Il n'avait jamais vu un chien devenir enragé. Il n'avait aucune raison de redouter la folie. Pourtant, il comprit l'horreur de l'événement et il prit la fuite en proie à la panique. Il courait droit devant lui, avec Dolly, haletante et écumante, à un pas en arrière. La terreur de Buck était si intense qu'elle ne pouvait le rattraper. Mais la démence de la chienne était si grande qu'il ne pouvait la semer. Il s'enfonça dans l'intérieur boisé du Nil, redescendit jusqu'à l'autre extrémité, traversa encore un chenal couvert de glace durcie, atteignit une deuxième île, puis une troisième, fit un crochet pour revenir au cours principal de la rivière et en désespoir de cause commença à la traverser. Et pendant tout ce temps, il ne jeta pas un seul regard en arrière. Mais il pouvait l'entendre gronder juste derrière lui. Lorsque François l'appela d'une distance d'un quart de mille, il vira brusquement pour rentrer. Toujours en avance d'un bond sur elle, il haletait à bout de souffle. Il mettait tout son espoir dans l'homme pour le sauver. Le conducteur de traîneau tenait la hache toute prête dans sa main. Et lorsque Buck passa devant lui comme l'éclair, elle s'abattit sur le crâne de la malheureuse folle. Buck alla s'appuyer au traîneau en titubant, épuisé, cherchant à reprendre son souffle. Il était sans défense. Occasion rêvée pour Spitz. Il se rua sur Buck, et par deux fois ses dents s'enfoncèrent dans le corps de son adversaire incapable de résister. Il déchira et arracha la chair jusqu'à l'os. Alors la lanière de François s'abattit, et Buck eut la satisfaction de voir Spitz frapper du pire coup de fouet jamais administré à un membre de l'équipe.
« Un démon, ce Spitz !» remarqua Perrault. « Un jour, il tuera ce pauvre Buck. »« En fait, démon, ce Buck en vaut deux !»
répliqua François.
« Depuis le temps que je l'observe, j'en suis certain. Écoute, un beau jour, il deviendra enragé comme le diable. Et alors, il n'en fera qu'une bouchée de ce Spitz. Et il le recrachera sur la neige. Sûr, je le sais. »
À partir de ce moment, ce fut la guerre entre eux. Spitz, en tant que chien de tête et maître reconnu de l'équipe, sentait sa suprématie menacée par ce singulier chien des terres du Sud. Et singulier, Buck l'était pour lui. Car parmi les nombreux chiens du Sud qu'il avait connus, aucun ne s'était comporté dignement au camp ni sur la piste. Ils étaient tous trop mous. La dureté de la tâche, le gel, le manque de nourriture les conduisaient à la mort. Buck était l'exception. Seul entre tous, il résistait, restait en forme, et faisait jeu égal avec le husky, en force, en sauvagerie, en astuce. Puis c'était un chien autoritaire, et ce qui le rendait dangereux, c'était que le gourdin de l'homme au gilet rouge avait éliminé tout courage aveugle et toute imprudence de son désir de domination. Il était avant tout rusé, et capable d'attendre son heure avec une patience digne des bêtes primitives. L'affrontement pour l'hégémonie devenait inévitable. Buck le souhaitait. Il le voulait parce que c'était dans sa nature, parce qu'il était maintenant possédé par l'orgueil inouï, incompréhensible de la piste et du trait. Cet orgueil qui rive les chiens à leur dur labeur jusqu'à leur dernier souffle, qui les captive au point de les faire mourir avec joie sous le harnais et leur brise le cœur si on les en prive. C'était l'orgueil de Dev comme timonier, celui de Sol Lex quand il tirait de toute sa force, l'orgueil qui s'emparait d'eux quand on levait le camp et transformait ces brutes hargneuses et maussades en créatures capables d'efforts, d'enthousiasme, d'ambition. L'orgueil qui les aiguillonnait toute la journée, les conduisait au nouveau camp du soir et les laissait agités, insatisfaits et mélancoliques. C'était l'orgueil qui soutenait le moral de Spitz et lui faisait battre les chiens de traîneau quand ils commettaient des erreurs, paraissaient dans les traits où se cachait le matin au moment du harnachement. De même, c'était cet orgueil qui lui faisait craindre Buck comme un leader éventuel. Et c'était bien aussi l'orgueil de Buck. Il menaçait ouvertement la suprématie de l'autre. Il s'interposait entre lui et les paresseux qu'il aurait dû punir. Et il le faisait exprès. Une nuit, il y eut une grosse chute de neige, et au matin, Pike, le simulateur, ne reparut pas. Il était caché bien en sécurité dans son abri, sous un pied de neige. François l'appela et le chercha en vain. La colère rendait Spitz furieux. Il exhalait sa rage dans tout le camp, reniflait et creusait dans tous les endroits possibles et grondait de manière si effrayante que Pike l'entendait et tremblait dans sa cachette. Mais quand on finit par le dénicher et que Spitz fonça sur lui pour le punir, Buck s'interposa avec autant de rage. Ce fut si inattendu et si astucieusement accompli que Spitz se trouva précipité à la renverse, patte en l'air. Pike, qui tremblait servilement, reprit courage devant cette rébellion ouverte et se jeta sur son chef culbuté. Buck, qui avait oublié le fair-play, se jeta pareillement sur Spitz. Mais François, qui riait bien de cet incident tout en restant inébranlable pour rendre la justice, abattit son fouet sur Buck de toute sa force. Cela ne suffit pas à l'écarter de son rival jeté à terre et le manche du fouet dut entrer en action. À moitié assommé par le coup, Buck fut renvoyé en arrière et la lanière le cingla à plusieurs reprises, tandis que Spitz donnait une bonne correction à Pike, qui en prenait si souvent à son aise. Les jours suivants, alors qu'on se rapprochait de plus en plus de Dawson, Buck continuait encore à s'immiscer entre Spitz et les coupables. Mais il le faisait astucieusement quand François ne les surveillait pas. Avec la rébellion feutrée de Buck, un vent d'insubordination générale s'était levé et grandissait. Dave et Sol Lex n'en étaient pas affectés, mais pour le reste de l'équipe, tout allait de mal en pis. Rien ne marchait plus droit. C'était des chamailleries et un tintamarre continuel. Il se tramait toujours quelques désordres et Buck en était l'origine. Il tenait François en haleine, car le conducteur de traîneau appréhendait constamment la lutte à mort entre les deux chiens, dont il savait bien qu'elle aurait lieu tôt ou tard. Et plus d'une fois la nuit, des bruits de disputes et de querelles entre les autres chiens l'arrachèrent à son sac de couchage, car il redoutait qu'il ne s'agît de Buck et de Spitz. Mais l'occasion ne se présenta pas d'elle-même, et ils entrèrent à Dawson par un morne après-midi. Le grand combat était encore à venir. Il y avait là beaucoup d'hommes et d'innombrables chiens, et Buck les trouva tous au travail. Il semblait dans l'ordre des choses que les chiens dussent travailler. Toute la journée, leurs longs attelages parcouraient dans les deux sens la rue principale, et le soir, on entendait encore le tintement de leurs clochettes. Ils tiraient des rondins pour les cabanes ou du bois de chauffage, assuraient le transport jusqu'aux mines et faisaient toutes sortes de travaux qu'on confiait aux chevaux dans la vallée de Santa Clara. Ça et là, Buck rencontrait des chiens du sud, mais dans l'ensemble, la race sauvage du husky croisé de loup prédominait. Chaque nuit, à intervalles réguliers, 9h, minuit, 3h, on entendait s'élever leur chanson nocturne. Un chant mystérieux et sinistre que Buck, pour sa plus grande joie, entonnait avec eux. Avec l'embrasement froid de l'aurore boréale au firmament, les étoiles qui bondissaient dans leur danse glacée et la terre engourdie et gelée sous son suaire de neige, cette chanson des huskies aurait pu être un défi à la vie. Mais elle était lancée sur le mode mineur avec de longues plaintes et des demi-sanglots, et elle constituait plutôt une supplication à la vie, l'expression de la douleur de l'existence. C'était une vieille chanson, aussi vieille que la race même. Une des premières chansons d'un monde plus jeune, au temps où les chants étaient tristes. Elle était imprégnée par le malheur d'innombrables générations, cette plainte qui remuait Buck de si étrange manière. Quand il gémissait et sanglotait, c'était avec la douleur de vivre qui était jadis celle de ses ancêtres sauvages, et avec la peur et le mystère du froid et de l'obscurité qui constituaient pour eux la peur et le mystère essentiel. Et le fait qu'il en fût remué prouvait bien son retour complet, par-delà les âges du feu et du toit, au rude commencement de la vie, en ces âges où hurlaient les loups. 7 jours après leur arrivée à Dawson, ils descendirent la rive escarpée près des barracks jusqu'à la piste du Yukon et repartirent pour Dia et Saltwater. Perrault transportait des dépêches peut-être plus urgentes encore que celles qu'il avait apportées. En outre, l'orgueil du voyage l'avait saisi, et il avait l'intention d'établir le record de vitesse de l'année. Plusieurs facteurs favorisaient son dessein. La semaine de repos avait permis aux chiens de récupérer et les avait mis en très bonne forme. La piste qu'il avait tracée dans la région était tassée et durcie par des voyageurs qui leur avaient succédé. En outre, la police avait aménagé en 2 ou 3 endroits des dépôts de nourriture pour les chiens et les hommes, et on pouvait donc voyager sans lourd fardeau. Dès le premier jour, ils arrivèrent à la 60 Mile, après une course de 50 milles. Et le second, ils réussirent à remonter le Yukon à belle allure, jusqu'à la Pelée. Mais cette moyenne splendide avait sa contrepartie. De graves ennuis et de gros problèmes pour François. La révolte insidieuse menée par Buck avait détruit la solidarité de l'attelage. Ce n'était plus comme si un seul chien bondissait dans les traits. L'encouragement que Buck donnait aux rebelles les amenait à commettre toutes sortes de petites infractions. Spitz n'était plus un leader hautement redouté. Il ne restait plus rien du respect qu'il inspirait et, peu à peu, ils défièrent tous son autorité. Un soir, Pike lui vola une moitié de poisson et l'engloutit sous la protection de Buck. Un autre soir, Dub et Joe se battirent avec Spitz et le firent renoncer à la punition qu'il méritait. Et même Billy, la bonne patte, avait moins bon caractère et ne gémissait plus de façon aussi apaisante qu'autrefois. Buck n'approchait jamais de Spitz sans gronder et se hérisser de manière menaçante. En fait, son comportement tenait du bravache et, sous le nez même de Spitz, il se livrait à des fanfaronnades. Le relâchement de la discipline affectait également les relations des chiens entre eux. Ils se querellaient et se chamaillaient plus que jamais, au point qu'il y avait parfois au camp un charivari de hurlements. Dev et Sol Lex étaient les seuls à n'avoir pas changé, mais les disputes incessantes les rendaient irritables. François poussait d'étranges jurons barbares, tapait rageusement la neige du pied, mais en pure perte, et s'arrachait les cheveux. Son coup de fouet faisait toujours entendre sa chanson au milieu des chiens, mais il n'avait que peu d'effet. Dès qu'il avait le dos tourné, il recommençait. Il soutenait Spitz avec son fouet, mais Buck soutenait le reste de l'équipe. François savait qu'il était derrière tout ce désordre, et Buck savait qu'il était au courant. Mais il était trop malin pour se faire jamais reprendre la main dans le sac. Il trimait loyalement sous le harnais, car le travail était devenu pour lui un plaisir. Cependant, il trouvait un plaisir encore plus grand à pousser sournoisement ses camarades à se battre et à embrouiller les traits. Au confluent de la Taquina, un soir, après le dîner, Dub dénicha un lièvre des neiges. Mais maladroit comme il était, il le manqua. En un instant, tout l'attelage cria tue-tête. À 100 yards de là se trouvait un camp de la police du Nord-Ouest, avec 50 chiens, tous des huskies, qui le prirent aussi en chasse. Le lièvre descendit le cours de la rivière à toute allure, tourna dans un petit ruisseau dont il entreprit de remonter le lit gelé. Il courait d'un pas léger à la surface de la neige, alors que les chiens devaient user de toute leur force pour avancer, péniblement. Buck menait la meute, 60 costauds, virage après virage, mais il ne put le rejoindre. Il courait ventre à terre, en poussant des gémissements d'impatience, et son corps splendide filait comme l'éclair, à grands bonds, dans la pâle blancheur du clair de lune. Et à grands bonds, telle une apparition glacée et livide, le lièvre des neiges fonçait devant lui. Tout ce frémissement des anciens instincts qui, à des époques déterminées, poussent les hommes à quitter les villes bruyantes pour aller tuer dans les plaines et dans la forêt, avec des grains de plomb à propulsion chimique, ce désir du sang, cette joie de massacrer, tout cela, Buck le ressentait. Seulement c'était en lui infiniment plus profond. Il allait en tête de la meute, traquant l'animal sauvage, la viande vivante, pour la tuer de ses propres dents et tremper sa gueule jusqu'aux yeux dans du sang chaud. Il y a une extase qui marque l'apogée de la vie et en constitue le sommet indépassable. Tel est le paradoxe de l'existence. Cette extase survient quand on est le plus pleinement vivant, tout en l'oubliant complètement. Cette extase, cet oubli de la vie, saisit l'artiste élevé et emporté hors de lui-même dans un rideau de flammes. Elle saisit le soldat fou de guerre sur un champ dévasté et refusant de faire quartier. Et elle s'empara de Buck alors qu'il conduisait la meute, poussait l'antique cri du loup et fonçait derrière la nourriture vivante qui fuyait rapidement devant lui au clair de lune. Il sondait les profondeurs de sa nature et aussi d'autres éléments plus profonds qui le ramenaient aux origines du temps. Il était sous l'emprise du pur déferlement de la vie, du raz-de-marée de l'existence, de la joie parfaite de chaque muscle, de chaque articulation, de chaque tendon particulier, dans la mesure où c'était tout le contraire de la mort. Toute l'ardeur et l'exubérance qui s'exprimaient dans le mouvement et volaient avec exultation entre les étoiles au-dessus de lui et la surface de matière inerte sous ses pas. Mais Spitz, froid et calculateur, même dans les moments les plus intenses, abandonna la meute et prit un raccourci. Une étroite langue de terre, là où le ruisseau décrivait une vaste courbe. Buck ne s'en aperçut pas, et alors qu'il suivait la courbe et que le fantôme glacé du lièvre voltait encore devant lui, il vit un autre fantôme plus grand bondir de la rive en surplomb juste à l'endroit où passait le lièvre. C'était Spitz. La proie ne put faire demi-tour, et lorsque les dents blanches lui brisèrent l'échine en pleine course, elle poussa un hurlement aussi fort qu'un homme frappé à mort. En entendant ce cri de la vie, précipité de son point culminant dans l'étreinte du trépas, la meute entière sur les talons de Buck entonna un cœur de joie infernale. Buck ne poussa pas un cri. Il ne s'arrêta pas, mais fonça sur Spitz, épaule contre épaule, en un élan si rude qu'il manqua la gorge. Ils roulèrent l'un sur l'autre dans la neige poudreuse. Spitz se remit sur ses pattes, presque comme s'il n'avait pas été renversé, taillada Buck au bas de l'épaule et s'écarta d'un bond. Deux fois ses dents s'entrechoquèrent comme les mâchoires d'acier d'un piège alors qu'il reculait pour s'assurer un meilleur équilibre. Ses babines minces se soulevaient en un rictus et laissaient échapper des grondements. En un éclair, Buck comprit. Le moment était venu. C'était une lutte à mort. Alors qu'ils tournaient l'un autour de l'autre en grondant, les oreilles en arrière, intensément attentifs à prendre l'avantage, la scène donna à Buck une sensation de familiarité. Il lui semblait qu'il se rappelait tout cela. Les bois blanchis de la neige, la terre, le clair de lune, le frisson de la bataille. Au-dessus de la blancheur et du silence régnait un calme fantomatique. Il n'y avait pas le moindre bruissement d'air. Rien ne bougeait. Pas une feuille ne tremblait. On ne voyait que le souffle des chiens qui s'élevaient lentement et tardaient à se dissiper dans l'air glacé. Il n'avait fait qu'une bouchée du lièvre des neiges, ces loups mal domestiqués. Et maintenant, ils étaient rangés en un cercle attentif. Le silence régnait aussi parmi eux. Seuls leurs yeux brillaient et leur haleine montait doucement dans les airs. Pour Buck, elle n'avait rien de nouveau ou d'étrange, cette scène du temps jadis. C'était comme si elle avait toujours existé et constituait le cours habituel des choses. Spitz était un lutteur entraîné, du Spitzberg à l'Arctique, à travers le Canada et les Barents. Il avait tenu tête à toutes sortes de chiens et était parvenu à les dominer. Sa rage était violente, mais jamais aveugle. Dans sa passion pour déchirer et détruire, il n'oubliait jamais que son ennemi était animé de la même passion. Il ne s'aventurait jamais avant d'être prêt à subir son assaut, n'attaquait jamais avant d'avoir d'abord paré à son attaque. C'était en vain que Buck s'acharnait à planter ses dents dans le cou du grand chien blanc. Partout où ses crocs cherchaient à atteindre la chair plus douce, ils étaient contrés par les crocs de Spitz. Le croc heurtait le croc. Les babines étaient déchirées et sanglantes. Mais Buck ne pouvait prendre son ennemi au dépourvu. Alors, il s'enflamma et enveloppa Spitz dans un tourbillon d'assaut. Maintes et maintes fois, il essaya d'atteindre la gorge blanche comme neige où la vie bouillonnait juste sous la peau. Mais à chaque tentative, Spitz le tailladait et s'échappait. Alors Buck repartait à l'assaut comme s'il cherchait la gorge. Puis soudain, en reculant la tête et en faisant un crochet de côté, il amenait son épaule près de celle de Spitz comme un bélier destiné à le renverser. Mais c'était l'épaule de Buck qui était déchirée à chaque fois, tandis que Spitz s'enfuyait d'un bond léger. Spitz restait indemne, alors que Buck ruisselait de sang et haletait durement. Le combat devenait désespéré. Et pendant tout ce temps, le cercle silencieux des demi-loups attendait d'achever celui des deux chiens qui s'abattraient. Buck avait de plus en plus de mal à reprendre son souffle. Spitz repartait à l'assaut et le contraignait à chanceler pour garder son équilibre. À un moment, Buck fut renversé et le cercle entier des 60 chiens se dressa, mais il se rétablit avant de toucher le sol et ils se rassirent pour attendre. Cependant, Buck possédait une qualité qui faisait sa grandeur, l'imagination. Il combattait d'instinct, mais il pouvait lutter aussi bien avec son intelligence. Il se rua sur son adversaire, comme s'il essayait la vieille ruse de l'épaule, mais au dernier moment, il se plaqua au sol dans la neige. Ses dents se refermèrent sur la patte avant gauche de Spitz. Il y eut un craquement d'os brisé, et le chien blanc lui fit face sur trois pattes. Trois fois, Buck essaya de le renverser, puis il répéta sa ruse et lui cassa la patte avant droite. Malgré sa douleur et son impuissance, Spitz luttait comme un fou pour se maintenir debout. Il voyait le cercle silencieux avec les yeux brillants, les langues pendantes, les souffles argentés qui s'élevaient dans l'air, se refermer peu à peu sur lui, comme il avait vu dans le passé de semblables cercles se refermer sur des adversaires vaincus. Seulement, cette fois, c'était lui le perdant. Il n'y avait pas d'espoir pour lui. Buck fut inexorable. La pitié était un luxe réservé aux contrées plus douces. Il manœuvra pour l'assaut final. Le cercle s'était resserré à tel point qu'il pouvait sentir les souffles des huskies sur ses flancs. Il pouvait les voir, derrière Spitz et de chaque côté de lui, à demi ramassés pour bondir, les yeux fixés sur leur victime. Il sembla y avoir une pause. Chaque animal était immobile, comme pétrifié. Seul Spitz frissonnait et se hérissait. Il chancelait d'avant en arrière et grondait d'horribles menaces, comme pour faire fuir la mort imminente. Alors Buck se jeta sur lui, puis se retira. Mais tandis qu'il bondissait, l'épaule avait enfin frappé en plein l'épaule. Le cercle noir devint un point sur la neige inondée de lune. Cependant que Spitz disparaissait à la vue, Buck restait dressé, immobile, et observait. En champion victorieux, en mâle dominant des origines qui a donné le coup de grâce et a trouvé cela bon.